Bonjour à tous, ça marche? On se recueille quelques instants pour que Dieu prépare vos cœurs. Je pense qu'il l'a déjà fait, mais je veux prier vraiment pour que la parole de Dieu ait un impact particulier cet après-midi. Il n'y a pas tous les cœurs forcément qui seront concernés, mais il y a des cœurs. Parce que la parole de Dieu sait où toucher au bon moment, à l'endroit précis, et cet endroit précis, c'est cet après-midi, ce lieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Jésus, je t'adore, je te loue pour qui tu es, pour ta grandeur et ta magnificence. Merci pour le Saint-Esprit répandu sur nos cœurs, répandu sur ce rassemblement. Et ton esprit est tellement précis, Seigneur, qu'il vient maintenant préparer le cœur d'une âme, de plusieurs âmes. Et même si c'était une seule, il y aura de la joie dans le ciel pour une âme qui se repent et qui trouve la grâce en ton nom. Père, je te bénis pour ta parole qui est la vérité et que la vérité éclate maintenant dans les cœurs. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, on pourrait prendre la parole de Dieu dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17, s'il vous plaît. On reste sur la thématique de passer des ténèbres à la lumière. C'est une thématique très riche. Quand j'ai préparé ce message, j'avais une multitude de pensées qui me venaient, mais à un moment donné, il faut scinder. En plus, le pasteur il dit qu'il ne faut pas être trop long, donc on va essayer de faire court. J'espère qu'il y a un petit chrono qui m'aidera. 2 Corinthiens 5, 17, la parole de Dieu nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je m'appelle François Boinet. Je suis né le 28 septembre 1974 à Rouen et j'habite à telle adresse. Voilà mon identité. Voilà au niveau de l'administration ce que je suis. Bon, la photo sur la carte d'identité remonte un peu, donc j'ai un peu vieilli, malheureusement, c'est comme ça. Voilà mon identité au niveau administratif, au niveau des autorités. Si je me fais arrêter par la police, voilà qui je suis. Mais je ne suis pas que ça. Vous n'êtes pas que votre carte d'identité. Vous êtes bien plus. Nous avons un ADN qui nous est propre. Chacun là, parmi nous, et sur les 6 ou 7 milliards d'habitants sur la Terre, chacun a un ADN qui lui est propre. Chacun a des empreintes digitales qui lui sont propres. Si j'avais un micro et que je tapais sur quelqu'un cet après-midi, mes empreintes digitales parleraient contre moi, parce qu'elles me sont propres. J'ai un ADN, j'ai des empreintes digitales qui me sont réservées par mon Créateur. Parfois, ça nous dessert, la preuve, hein, ceux qui se font arrêter pour des faits violents ou des meurtres, voilà, ça les dessert, mais c'est comme ça, ça prouve au moins qui tu es. Mais nous avons une identité aussi spirituelle. Dans les cieux, dans les lieux élevés, il y a Satan qui nous connaît. Il y a le diable qui nous connaît par cœur. Et il y a Dieu qui nous connaît aussi mieux que nous-mêmes, qui nous connaît par cœur. Et aux yeux de Dieu, mais aussi de l'ennemi, nous avons une identité à ravir, à capter, à prendre. Parce que l'un et l'autre nous veulent, ils nous désirent. Mais il y en a un pour le bien, il y en a un autre pour notre malheur. Nous sommes tous issus de parents biologiques, vous êtes d'accord avec moi? Chacun a un père et une mère au milieu de nous. Même si maintenant il y a des processus qui font que parfois, voilà, vous pouvez avoir seulement une maman et puis un père qui, voilà, qui n'existe que dans votre imaginaire, parce que c'est comme ça, la technique aujourd'hui, la science font que vous pouvez naître comme ça. Mais, grosso modo, quasiment tous les êtres humains naissent de parents biologiques. Mais ce n'est pas parce que vous êtes issu cet après-midi de parents biologiques, père, mère, que forcément vous vivez dans le bonheur, dans la joie, dans l'abondance. Il y a des parents qui vous chouchoutent, qui vous choient. Ça a été mon cas et je remercie Dieu parce que vraiment il m'a donné des parents qui m'ont aimé. Mais il y a dans la vie des gens qui vivent un rejet. Un rejet. Eh oui, il y a des enfants qui sont délaissés, abandonnés, laissés pour compte, parce que non désirés. parce que différent des autres. Ça existe. Et je sais qu'il y a des gens ici ce soir qui ont vécu cela. Et que ça peut être une vraie souffrance. Et que cette identité-là d'enfant délaissé, de personne rejetée par le père, la mère ou les deux, ça les blesse. Ça les laisse quelque part sur le carreau. Il y a aussi d'autres personnes, parce qu'il y a plusieurs aspects du rejet, il y a des personnes aussi qui se sentent rejetées parce que leur physique, ce qu'ils représentent physiquement, les dégoûte, les rebute. Ils ne se sentent pas comme les autres. Pourquoi ? Parce que la société aujourd'hui, elle nous donne des normes. Tu dois avoir des tablettes de chocolat, tu dois avoir des pectoraux, tu dois avoir des biceps de diamètre imposant. Pour les femmes, c'est d'autres critères. La société nous oblige à être comme ci, comme cela. Et celui qui est fragile, celui qui peut-être a vécu des moqueries dans son enfance, je ne sais, des choses particulières, et qui ne se retrouve pas dans ces normes-là, dans ces critères-là, peut aujourd'hui souffrir. Souffrir d'être différent, d'être pas comme les autres. Alors si ce soir, ce que tu es, ce que tu représentes te dérange, c'est que celui qui te connaît bien là-haut, le diable, parce qu'il est dans des lieux aussi célestes, mais pas du bon côté de la frontière, on va dire. Lui, il va utiliser ce rejet-là pour t'enfoncer, pour te détruire, pour t'abattre. Je l'ai dit, le diable te connaît, il connaît tes fragilités, il connaît là où il y a une faille. Et si dans ton cœur tu es fragile à ce niveau-là, il t'utilisera pour t'emmener vers la mort, pour t'amener au néant. Alors il y en a qui vont vivre cela comme une façon d'attiser la haine envers l'autre. Il y en a, ça va être la colère. Il y en a, ça va être la méchanceté. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement mal en eux que ce rejet-là, ils le refoulent sur les autres. Et je sais que cet après-midi, il y en a qui ont aujourd'hui des mauvais comportements, des attitudes néfastes, parce qu'ils ne se sentent pas eux-mêmes aimés. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Le rejet de soi-même. Ça touche bien des personnes. J'ai dans mon milieu professionnel une ancienne collègue qui ne s'acceptait mais vraiment pas du tout. Cette collègue se trouvait énorme, grosse, à ses yeux, comme quoi le diable tord l'esprit. Il tord même la vue physique de quelqu'un pour le croire fort, costaud, appelez ça comme vous voulez. Et elle rejetait son physique. Qu'est-ce que le diable cherche à faire chez ces gens-là, ceux qui rejettent leur physique ? Il cherche simplement à justement leur tordre l'esprit pour les emmener dans un péril, pour les emmener vers le suicide et pour les emmener vers la mort. Que croyez-vous que quelqu'un qui fait de la boulimie, qui se nourrit, qui rejette tout ce qu'il mange, que croyez-vous qu'il a dans son cœur ? Il sent le rejet. Je ne sais pas si ça touche des personnes à ce niveau-là cet après-midi, mais j'aimerais te dire que c'est là où le diable t'attend. Quand tu vis dans le rejet de ta propre personne, de ton propre passé, de ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est exactement là où le diable t'attend. Il t'attend dans le côté obscur des choses. Il t'attend là, c'est l'endroit où il veut t'attraper. Et quand j'ai préparé ce message, j'avais comme cette image de quelqu'un qui est mis comme ça dans un coin, et le diable se met en opposition à la lumière. Opposition à la lumière d'une vie meilleure. Opposition à la lumière d'une vie épanouie. Le diable est un menteur. Nous allons le lire. Le diable est un menteur. Jean 8, verset 44, vous pouvez prendre avec moi. La parole de Dieu nous dit, et c'est Jésus même qui le dit, que le diable a été meurtrier dès le commencement, dès la Genèse. Et il continue aujourd'hui. C'est un meurtrier. Il faut l'appeler par son nom. C'est un meurtrier. C'est-à-dire que quand tu vis le rejet de toi-même, de ce que tu as vécu, le diable veut aller jusqu'au bout. Il veut te faire mourir. Et Jésus dira, le diable a été un meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il parle de son propre fond. Pourquoi ? Parce qu'il a été rejeté. Il a été rejeté et il veut t'emmener avec lui dans le rejet. Jésus l'a rejeté pour toujours. Nous le savons, Satan a voulu la gloire de Dieu, il a voulu prendre la place qui appartenait à Dieu. Il est rejeté, réservé pour un châtiment éternel. Il est réservé pour les temps de feu, pour les temps ardents de feu. Et son projet, c'est de t'emmener avec lui, de nous emmener avec lui. Il a un projet déterminé, et il est très déterminé à nous emmener chacun, tous autant que nous sommes. Et les personnes vulnérables, celles qui ressentent le rejet, celles qui se sentent exclues, celles qui se sentent à part, celles qui se sentent mises de côté, en font partie, bien entendu. Vous savez, Jésus, quand il a été tenté dans le désert, qu'est-ce que voulait le diable ? C'était le détourner de sa mission. Il veut détourner les gens de la vérité, du projet éternel de paix que Dieu a voulu pour eux. C'est pas agréable d'être rejeté, hein, vous savez. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, pour les garçons notamment, quand vous faites une équipe de foot. Quand vous êtes choisi en premier, en deuxième, ça va. Quand vous êtes choisi en troisième, quatrième, c'est moyen, mais on se dit on a encore un côté technique qui doit aller sans doute pour être dans les quatre premiers. Et quand vous êtes le dixième ou onzième et puis qu'il n'y a plus personne et qu'on a du mal encore à vous choisir, c'est un peu difficile. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, Dieu merci. Mais j'imagine. Vivre le rejet, ce n'est pas évident. Ça peut être une souffrance, vraiment. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire les choses jusqu'à aujourd'hui, là. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 17h37, ça peut changer, ça peut basculer, ça peut évoluer. Alors veux-tu vivre quelque chose de nouveau ? Veux-tu changer le passé qui est le tien ? Veux-tu, avec la grâce de Dieu, passer des ténèbres à son admirable lumière ? La parole de Dieu nous rappelle, et je vais prendre quelques exemples très rapidement, que tous ceux qui sont venus vers Jésus, qui est appelé la lumière du monde, tous ceux-là ont vécu un avant et un après. Prenez Zachée. Lui, il était rejeté des habitants de Jéricho. Pourquoi ? Parce que péager de métier, M. Zachée s'en mettait plein les poches. Les taxes, il les prenait plus que prévu. Et il vivait bien, le Zachée. Il vivait vraiment très bien. Mais il extorquait les gens. Et finalement, à Jéricho, il était rejeté. Vous savez qu'on peut être très riche et en même temps souffrir du rejet. Hein ? Parce que justement, on est trop riche et on se croit supérieur. Et voilà, on est mis de côté. Alors notre richesse, elle ne sert à rien parce qu'on est malheureux finalement. Et c'est ce que vivait Zachée. Zachée, il était loin de la population de Jéricho. Il était rejeté des habitants, il avait besoin de vivre quelque chose de nouveau dans sa vie. Et quand il entend que Jésus passe par là, mais c'est une délivrance pour lui, Zachée. Il apprend que celui qui donne la vie, que celui qui est la lumière, vient là, dans sa contrée. Mais il a raison, Zachée, de courir jusqu'au sycomore. Je dis, tu auras raison cet après-midi de courir vers la lumière qu'est Jésus. Et même s'il fallait monter sur l'estrade pour aller le chercher, je pense que tu le ferais. Parce que Jésus, c'est le sauveur du monde. C'est celui qui ramène la joie. Zachée, mais il va dire oui à Jésus. Il va dire oui, oui, je veux. Je t'accepte dans ma maison, viens. Les autres, c'est étonnant. Hein, ils n'avaient pas, particulièrement les villageois de Jéricho, on n'a rien à leur reprocher dans ce texte. Mais Jésus, il a dit, oui, je veux que tu demeures dans ma maison. Et c'est lui, dans sa maison, dans laquelle Jésus est venu. Il s'est approché de Jésus. Il y a eu un avant et un après. Il a dit, je donne la moitié de mes biens à ceux à qui j'ai fait du tort. Et je rends aussi le quadruple s'il le faut. Quel changement de vie! Après, je pense qu'il a été béni dans son village. On ne parle pas de Zachée après, finalement. Mais je pense qu'il y a le Zachée d'avant, il y a le Jéricho avant, il y a le Jéricho après Zachée. Où finalement, les gens à nouveau se sont bien intégrés à lui, etc. Il a vécu à nouveau la joie, la tranquillité de son esprit. Il y a aussi la maladie, parfois, qui peut nous amener à vivre le rejet. Ben oui, malheureusement, on a une société où quand vous êtes différent, si vous êtes boiteux, etc., on vous regarde différemment. On vous met un peu à part. D'ailleurs, vous remarquerez que malgré les belles infrastructures que nous avons en France, ceux qui sont handicapés avec des fauteuils roulants, ils n'ont pas toutes les commodités que nous avons. Ils peuvent sentir le rejet. Peut-être que c'est ton cas, tu te sens différent parce que malade, parce que tu n'es pas bien physiquement, et que finalement, il n'y a pas grand monde, à part peut-être au début de ta maladie, qui s'est intéressé à toi. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Jésus s'intéresse toujours à toi. Jésus toujours pense à toi. Il y a cette femme atteinte d'une perte de sang, rejetée car impure, mise au banc parce que la loi les condamnait automatiquement à être mise de côté. Cette femme-là, elle n'avait que Jésus. Jésus passe aussi par là. Et elle, sa foi était déterminante. Il nous l'a été rappelé ce matin dans le message. Sa foi était déterminante. Elle est allée toucher le vêtement de Jésus. Sa maladie, elle la détruisait, elle l'emmenait loin de Dieu. Elle l'emmenait vers la mort sociale, mais aussi la mort physique. Jésus passe par là, elle est guérie. Quel relèvement pour cette femme! Quelle joie à nouveau de vivre dans une société où elle est libre de faire ses mouvements, d'aller et venir et de prier son Dieu. Amen. Prenez la femme aussi adultère. Cette femme-là, elle est condamnée par les scribes et les pharisiens. Vous savez, on a tous tôt fait de juger les gens. Quand quelqu'un grille un feu rouge en voiture, on va lui dire... on va se dire dans la voiture, mais franchement, qu'est-ce qu'il fait là? Mais qui n'a jamais grillé un feu rouge, franchement? On est tous pareils. On a tôt fait de juger les autres. Mais on fait parfois la même chose. Et cette femme adultère, les scribes et les pharisiens la jugeaient, rejetée aussi. Elle méritait la mort. Rejetée à cause de son péché. Mais Jésus a une parole de grâce sur sa vie. Jésus va s'occuper d'elle dans ce moment particulier pour elle, décisif pour elle, parce que c'était la lapidation. Il va s'occuper des scribes et pharisiens, il va les remettre devant les faits accomplis, en secret. Ils ont fait aussi des choses... Mais Jésus, il va dire à cette femme, « Va, je ne te condamne pas non plus, mais ne pêche plus. » Et il nous est dit un petit peu plus loin dans le texte, et c'est bien raccroché au texte, Jésus dira, « Je suis la lumière du monde. » Vous voyez, elle était dans les ténèbres, la mort était pas loin d'elle. Et Jésus, tout de suite après, va développer, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit. » Cette femme, elle va décider de suivre Jésus, c'était son seul secours de toute façon. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Paul dira aussi, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Peut-être que cet après-midi, ton cœur est chargé de péchés, de choses dont tu as honte. Si elles étaient affichées sur l'écran, vous savez, même moi, les choses que j'ai faites, si elles étaient affichées sur l'écran, on est tous au même niveau. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation, elle est venue sur Jésus-Christ à la croix. Le Père a envoyé le Fils pour qu'il prenne notre fardeau à notre place. Vous savez, Jésus, il a connu le rejet. Et il l'a vécu vraiment lourdement, le rejet. Il a été rejeté du peuple d'Israël, rejeté par les siens, rejeté par les disciples. À la croix, il a vécu le rejet ultime. Tous m'ont abandonné. Il a même dit au Père, « Père, tu m'as abandonné. Pourquoi ?» Jésus était là pour ma vie, parce qu'il savait qu'un jour, tu serais rejeté d'une manière ou d'une autre, ou que tu ressentirais le rejet d'une manière ou d'une autre. Mais il y a la grâce de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Et je vous incite vraiment à la lire chez vous. Parce que la parole de Dieu, c'est ce faisceau qui éclaire notre vie. Ce faisceau de lumière là, qui vient pointer tout ce qui est malsain, qui gêne le Seigneur, qui peut nous poser problème, qui peut nous faire dévier. Le psaume 119:105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu, elle dissipe les ténèbres. Quand tu vas la lire, tu vas sentir que ta vie, le rejet que tu as vécu quand tu étais enfant, que tu vis même peut-être encore maintenant, le rejet de ta condition physique, de ce que tu représentes, tout ça, ça va être dissipé. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu te dit réellement qui tu es aux yeux de Jésus. Et elle le dit précisément. Je n'aurai pas le temps de lire tous les textes qui parlent de ta condition en Jésus-Christ. Tu as une identité en Jésus-Christ. Tu es quelqu'un de précieux à ses yeux. Jésus, le grand je suis, lui, il a une identité extraordinaire. C'est le grand je suis. Là aussi, on pourrait développer, mais longtemps, sur qui il est, le grand je suis. Jésus, lui, le grand je suis, dit de moi, dit de nous, que nous sommes sa créature. Quand dans la Genèse, on lit ce que Dieu a créé, et y compris l'être humain, Dieu dit que cela était très bon. Très bon. Ça veut dire que ce que nous sommes, à ses yeux, c'est excellent. C'est très bon. Alors peut-être qu'on se trouve des défauts quand on est devant le miroir, quand on se regarde, peut-être qu'on ne fait pas assez de piscine ou de gym ou de, je ne sais pas, du step. Mais Jésus, lui, nous voit très beau, très bon, en excellente santé. Amen. Bon, il y a encore du sport à faire hein, quand même. Hein. À ses yeux, je suis son fils, sa fille. Je suis son ami. Je suis quoi encore ? Je suis héritier de Dieu. C'est-à-dire que ce qui lui appartient dans le ciel, toutes ses richesses et son royaume extraordinaire, je suis héritier de tout ça. Ça m'appartient aussi. Mais c'est incompréhensible, c'est incroyable cela. Sur terre, on a très peu de choses. Hein, on est tous à peu près au même niveau de vie, grosso modo. Si on a un petit peu de patrimoine, ben on s'en satisfait. Mais là-haut, on a un patrimoine extraordinaire. On vivra dans la joie, dans la paix, dans l'abondance. Amen. Nous sommes aussi une race élue, choisie. La parole de Dieu te le dit. Dieu t'a choisi. Et je ne le dis pas que collectivement, je le dis individuellement. Prends-le pour toi cet après-midi. Tu as été choisi par Dieu. Et même si les conditions de ta naissance ou de ton arrivée sur la terre te semblent bizarres, anormal, parce que non désiré, parce que c'était une situation vraiment incongrue. Dis-toi qu'il n'y a jamais de hasard avec Dieu et Dieu t'a choisi. Même si le départ pour toi est raté, Dieu lui l'avait prévu. Dieu l'avait prévu parce qu'il voulait arriver à te connaître, à connecter avec toi. On pourrait lire Jean chapitre 1 verset 12, j'ai bientôt fini. Jean chapitre 1, verset 12. C'est un verset très important de la parole. Même au verset 9. Cette lumière, Jésus, était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et là, c'est important de s'arrêter là. Lisez, écoutez bien, ou lisez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, celui qui cet après-midi est là, comme dans un coin reclus, parce qu'ils se sont rejetés de tous, et même de Dieu, écoutez bien cela. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir, elle a donné de la puissance pour se relever, pour s'extirper de cette situation de rejet là, psychologique, mental, moral, etc. Elle a donné le pouvoir de quoi ? De devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Si ton père et ta mère te rejettent, Dieu lui dit dans sa parole qu'il ne te rejettera jamais. Une mère pourrait oublier l'enfant qu'elle allait. Moi, je ne t'oublierai point, dit le Seigneur. Il nous est parlé, je crois que c'est dans un livre des prophètes, je ne sais plus exactement lequel, qu'il tient à nous comme la prunelle de ses yeux. Tu as de la valeur. Tu es considéré cet après-midi. Je ne sais pas ce que tu as vécu avant. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu as connues jusqu'à présent. Je ne sais pas quel état de cœur tu as cet après-midi. Je ne sais pas si tu as le moral à zéro. Parce que tu te sens nul, parce que tu te sens inconsidéré, parce que tu te sens rejeté de la société. Jésus t'accepte. Jésus te voit. Jésus te cherche. Jésus t'appelle. Jésus veut vraiment t'arracher au danger. Jésus t'aime, tout simplement. La Bible nous dit que Jésus ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait pour moi, il le désire pour toi. Moi, je suis sur l'estrade là, mais je ne vaux pas plus que toi aux yeux de Dieu. Il n'y a pas un qui soit au-dessus de l'autre cet après-midi à ses yeux. Ce que tu considères toi, Dieu ne le considère pas de la même façon. Tu es choisi, précieux, devant lui. On pourrait courber nos fronts, s'il vous plaît. Je ne sais pas si le pianiste peut intervenir. Le diable a fait une œuvre particulière dans ton cœur. Et tu crois que cet après-midi, ce qu'il reste de vie en toi va être piétiné. Qu'il te reste très peu de choses à vivre, à découvrir dans ce monde. Il y a une certitude dans la parole de Dieu. C'est que là où le péché a abondé, là où le tort a abondé dans ta vie, là où la souffrance a abondé dans ta vie, là où la tristesse a abondé dans ta vie, la grâce de Dieu, elle a surabondé. Elle surabonde encore cet après-midi. Toi qui vis le rejet de toi-même, toi qui vis le rejet dans la société, toi qui te sens à part, Jésus veut t'accueillir les bras ouverts cet après-midi. Et par voie de conséquence aussi, l'Église t'accueille les bras ouverts cet après-midi. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons vécu l'amour de Dieu. Et si tu es vraiment dans cette situation, viens me voir, viens voir un pasteur. Et on va te dire vraiment que nous t'aimons. Que tu comptes à nos yeux, mais que tu comptes surtout aux yeux de Dieu. Nous sommes là pour partager l'amour de Dieu. Nous sommes là pour propager l'amour de Dieu. Il y a une lumière qui luit dans les ténèbres. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour Dieu. Ce que tu vis là maintenant, ta situation morale là qui est au ras des pâquerettes, Jésus veut te relever cet après-midi. Jésus veut te rendre la joie. Jésus veut te rendre un homme important, une femme importante. Il n'en a que faire si tu as un niveau d'études qui est bas. Il n'en a que faire si tu n'as pas de travail. Il t'en donnera. Mais sache que tu as de la considération à ses yeux. Jésus t'aime. Sors de ces ténèbres. Jésus veut que tu sois relevé cet après-midi. Seigneur, bénis ta parole. Tu es la lumière. Tu es celui qui luit dans les ténèbres. Nous te louons, Jésus, pour ton œuvre à la croix. Les ténèbres du tombeau n'ont pu te retenir. La pierre a été roulée. Et l'obscurité s'est dissipée dans le tombeau. Et tu es sorti victorieux et glorieux. Seigneur, tu viens dans le tombeau d'une vie cet après-midi. Et tu interviens. Quand tu es allé voir Lazare, Jésus, tu n'as pas eu peur de l'odeur de la mort. Tu n'as pas, Seigneur, reculé devant cela. Mais tu es allé le ressusciter. Alors je te demande de faire dans l'œuvre, comme l'œuvre de Lazare, dans un cœur. De le ressusciter, de le ramener à la vie, de le ramener à la lumière de ce monde. Merci parce que tu es bon, tu es très bon, tu es excellent Jésus et ton œuvre sera parfaite dans les vies. Alléluia, merci Jésus, merci pour ton œuvre maintenant. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Amen, amen.